Une vie, une œuvre, Claude Lévi-Strauss, 1908 Bruxelles, 2009 Paris. Haïr les voyages et les explorateurs, c'est la devise de Gustave Claude Lévi, petit-fils d'Isaac Strauss, chef d'orchestre à la cour sous le nom d'usage Lévi-Strauss. Viennent les études au lycée Janson de Sailly et Condorcet, avant la faculté de droit, puis la Sorbonne, où il est reçu à l'agrégation de philosophie. Brièvement professeur, il part avec sa femme en mission universitaire au Brésil et engage plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie. Avec la Seconde Guerre, arrivent les persécutions. Il embarque sur le capitaine Paul Lemerle, où les gendarmes accompagnent ce qu'ils nomment la racaille, dont Victor Serge et André Breton, avec qui commença une durable amitié. Il publie, en 1955, Triste Tropique, qui bouleversera les codes de l'ethnologie. En 1958, un recueil d'anthropologie structurale où est théorisée son étude des peuples premiers et de leurs mythes. Élise Gruau signe avec Thomas Duterre Une vie, une œuvre, Claude Lévi-Strauss.
C'est l'aventure.
C'est la rencontre d'une forme de sensibilité.
L'aventure des goûts.
C'est un extraordinaire inventeur. C'est...
Qui était absolument unique et qui mélangeait justement...
Un refrain d'Offenbach ou...
Une poésie du savoir comme j'en avais rarement vu.
À des formes sensibles et à des problèmes intellectuels extraordinairement ardus.
L'anthropologie est un effort d'imagination. Lévi-Strauss est quelqu'un qui a fait preuve d'une extraordinaire imagination au sens de mise en variation de ses capacités de penser, de sentir, pouvoir voir les choses d'un point de vue si lointain qu'on pourrait même pas s'imaginer prendre ce point de vue.
Claude Lévi-Strauss, L'homme en perspective. Par Élise Gruau et Thomas Duterre.
Si on veut comprendre l'homme.
Claude Lévi-Strauss, apostrophe, 1984.
On peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
Comment devient-on ethnologue ? Pour bien des chercheurs, la lecture de Triste Tropique fut décisive. Mais qu'en est-il pour son auteur ? Au début des années 30, Claude Lévi-Strauss est un jeune professeur de philosophie qui a lu Marx et découvert Freud, et un militant socialiste actif. Mais il ressent un besoin de rupture et l'envie d'embrasser le monde. C'est un dimanche de l'automne 1934, à 9h du matin, sur un coup de téléphone, que tout se décide. Il embarque pour le Brésil, invité à devenir professeur de sociologie à l'université de São Paulo. Là, au cours de ses congés, il entreprend ses premières expéditions à la rencontre des Indiens. Cette expérience est un véritable baptême ethnographique. Il marque le tournant de sa carrière et lui fournit la matière première de la révolution des sciences sociales qu'il s'apprête à mener. Triste Tropique, 1955.
Pendant une quinzaine de jours, nous avons voyagé à cheval par d'imperceptibles pistes à travers des étendues de forêt si vastes qu'il fallait souvent pousser fort avant dans la nuit pour atteindre la hutte où nous ferions étape. Comment les chevaux parvenaient-ils à placer leurs sabots, malgré l'obscurité qu'une végétation refermée 30 mètres au-dessus de nos têtes rendait impénétrable, je ne sais. Bientôt, un son se précise dans le lointain. Non plus le rugissement du jaguar que nous avons entendu un instant au crépuscule. Cette fois, c'est un chien qui aboie. La halte est proche.
En 1935, Lévi-Strauss part à la rencontre des Indiens Kadouveo et Bororo. Il rapporte une importante collection d'objets, aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly, à Paris.
Je ne vais pas la déplier plus que ça.
Anne-Christine Taylor, vous avez revêtu vos gants de plastique bleu,
comme il se doit,
pour nous présenter cette pièce qui appartient à la collection Claude Lévi-Strauss, qui est une peau.
Une peau peinte, Kadouveo. Alors, les Kadouveo sont l'un des groupes visités par Lévi-Strauss lors de sa première expédition au Mato Grosso. Et vous vous souvenez que dans Triste Tropique, il a consacré à ce groupe des pages absolument scintillantes sur la question des peintures faciales des femmes. Et cette peau renvoie à cet art ornemental très particulier qui combine un style très angulaire et des volutes, un style plutôt d'arabesque. Les deux étaient très souvent combinés. Il faut savoir que les Kadouveo sont les descendants des Guaycurú. Les Guaycurú étaient une population qui se distinguait par deux choses. C'était une société extrêmement guerrière, qui avait adopté le cheval très tôt, et qui vivait un peu comme les Comanches aux États-Unis, de razzia sur les ethnies voisines, dont ils prélevaient des captifs. Et c'était une société hiérarchisée, quasiment à caste. Donc les Kadouveo, quand Lévi-Strauss les a rencontrés, étaient dans un état de déréliction effroyable, démographiquement terriblement appauvri et également terriblement traumatisé, très déprimé et vivant dans des conditions de quasi de survie. Et donc toute la structure sociale de ce groupe et son mode de vie traditionnel avait été quasiment effacé et il ne restait au fond de cette structure très hiérarchique et de cette société très aristocratique que les peintures corporelles.
La femme peintre travaille sur le visage ou le corps d'une compagne. Avec une fine spatule de bambou, trempée dans le suc du génie papeau, incolore au début, mais qui devient bleu-noir par oxydation, l'artiste improvise sur le vivant, sans modèle, esquisse, ni point de repère. Elle orne la lèvre supérieure d'un motif en forme d'arc, terminé aux deux bouts en spirale. Puis elle partage le visage au moyen d'un trait vertical, coupé parfois horizontalement. La face, écartelée, tranchée, ou bien même taillée en oblique, est alors décorée librement d'arabesques qui ne tiennent pas compte de l'emplacement des yeux, du nez, des joues, du front et du menton, se développant comme sur un champ continu. Ces compositions savantes, asymétriques tout en restant équilibrées, sont commencées en partant d'un coin quelconque et menées jusqu'à la fin sans hésitation ni rature.
Qu'est-ce qu'il a fait de ces dessins Kadouveo? Ce qui l'a fasciné, et il a certainement été, je pense, le premier ethnographe à relever ce fait, c'était que ces dessins fonctionnaient comme une sorte d'héraldique sociologique. Autrement dit, renvoyaient à la structure sociale disparue, en l'occurrence, très complexe des Cadouveo. Et l'autre chose qu'il en a tiré, et ça c'est le, en un sens le, la première expression et le premier coup de génie de l'intuition structuraliste, c'est que la même chose se retrouvait chez les Bororo, mais pas du tout sous forme de dessin, mais dans la disposition des villages.
Comment nous avons passé, je ne sais. Le voyage reste dans mon souvenir comme un cauchemar confus. Un matin, notre camion s'est laissé descendre vers le São Lourenço, signalé par le brouillard épais de la vallée. Avec le sentiment d'avoir accompli une prouesse, nous nous annoncions à grands coups d'avertisseurs. Pourtant, nul enfant ne venait à notre rencontre. Nous débouchons sur la rive, entre quatre ou cinq huttes silencieuses. Personne. Tout était inhabité. Et une rapide inspection nous convainquit que le hameau était abandonné. À bout de nerfs après les efforts des jours précédents, nous nous sentions désespérés. Et puis un jour, nous aperçûmes deux formes nues qui s'agitaient sur la berge. Nos premiers Bororo. Les Bororo, comme autrefois les Cadouveo, étaient divisés en moitié exogame, sous-divisé de multiples façons par toutes sortes d'autres modes de découpage sociologique. Et là aussi, ce qui fascinait Lévi-Strauss chez les Bororo, c'est que contrairement aux Cadouveo, il restait encore des traces évidentes de l'organisation sociale, notamment dans quelques villages, en dépit des efforts des missionnaires salésiens qui étaient déjà installés sur place pour changer l'ordonnancement des villages. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que ces mêmes missionnaires salésiens sont parmi les grands ethnographes des Bororo et se sont efforcés de recueillir le plus possible d'informations sur les Bororo tout en faisant tout pour détruire l'ordonnancement qui, là aussi, effectivement, autant les Cadouveo mettaient toute leur bille, si j'ose dire, dans les dessins, les Bororo, c'est vraiment l'organisation des villages reflété aussi en partie dans les parures. Et Lévi-Strauss a effectivement ramené énormément de parures Bororo parce qu'il s'était bien rendu compte que les parures jouaient un rôle d'héraldique sociologique très important. Autrement dit, chaque morceau de société, chaque segment de quelque ordre que ce soit avait des spécificités en termes de parures, des ordonnancements de plumes particuliers, des couleurs particulières, des assemblages particuliers, etc., etc. Et donc ça l'avait, ce côté héraldique, justement, l'avait totalement fasciné. Là, on a une couronne en plumes Bororo. J'essaie de voir s'il y a une spécification de fratrie et de moitié, probablement. Oui, effectivement. J'en ai acquis une pour le musée de l'homme en échange d'un fusil et après des négociations qui se prolongèrent pendant 8 jours. Elle était indispensable au rituel et les indigènes ne pouvaient s'en défaire qu'après avoir reconstitué à la chasse l'assortiment de plumes prescrites pour en confectionner une autre. Elle se compose d'un diadème en forme d'éventail, d'une visière de plumes couvrant la partie supérieure du visage, d'une haute couronne cylindrique entourant la tête, en baguette surmontée de plumes de l'aigle harpie, et d'un disque de vannerie servant à piquer un buisson de tiges encollées de plumes et de duvet. L'ensemble atteint presque 2 mètres de hauteur.
Les Bororos ont une image mentale de l'ordonnancement de leur village, vu du point de vue d'un oiseau, et spécifiquement d'une aigle harpie. Et certaines de leurs coiffes reproduisent la structure du village vue d'en haut. L'architecture des villages Bororo reproduit d'une certaine façon exactement ce que reproduisent les dessins Kadouveo, et ça, il l'avait perçu. Et ça, c'est effectivement, il est de loin évidemment le premier à l'avoir fait, et c'est un très bel exemple de comment on perçoit une ressemblance à travers une différence ou vice-versa.
Qui va être sa grande intuition scientifique et presque et philosophique.
Oui, tout à fait.
Claude Lévi-Strauss, film de Pierre Beuchaud, 1972.
Je crois bien que c'est un jour où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs et notamment une boule de pissenlit que je suis devenu ce que je ne savais pas encore s'appeler structuraliste en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés.
L'importance du structuralisme pour la pensée du XXe siècle.
Patrice Manillier, philosophe.
C'est que ça a été un mouvement transversal. Ça a parti de la linguistique. C'est devenu véritablement un projet pour l'ensemble des sciences humaines grâce à Lévi-Strauss. C'est Lévi-Strauss le premier qui a réussi à appliquer les méthodes structurales qui d'abord existaient en linguistique à d'autres champs, et au champ de l'anthropologie, c'est-à-dire en fait tout le domaine de la culture. Donc l'ensemble des phénomènes culturels, grâce à Lévi-Strauss, pouvait faire l'objet d'une analyse structurale dont le modèle était celui de la linguistique. Alors peut-être il faut dire que Lévi-Strauss a rencontré le structuralisme, il était structuraliste sans le savoir. Il a rencontré le structuralisme à New York en 1943 quand il a écouté les leçons du grand linguiste russe Roman Jakobson à New York, où ils étaient tous les deux exilés comme juifs rescapés par la fondation Rockefeller. Et là, dit-il, il s'est rendu compte qu'en fait, il était structuraliste, mais ça l'a obligé à retravailler le livre qu'il préparait déjà sur les structures élémentaires de la parenté. Il travaillait sur la parenté, puis il comparait différents systèmes de parenté, et il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait les comparer par leurs oppositions, et donc que les choses étaient unies par la manière dont elles diffèrent. Et ça, c'est une vision anthropologique du monde, c'est-à-dire que ce qui fait l'unité du genre humain, c'est l'ensemble des manières dont les êtres humains diffèrent les uns des autres. Donc le structuralisme, ça a été cette grande conscience selon laquelle les significations que nous donnons au monde sont les effets de systèmes de signes généralement inconscients, comme les langues le sont, comme nos systèmes de parenté le sont, mais qui sont aussi présents dans les institutions religieuses, dans les organisations politiques, dans les manières de table, dans les manières de se vêtir, etc. Donc le programme structuraliste que Lévi-Strauss a ouvert pour la première fois dans sa dimension maximale a ensuite été l'occupation vraiment dominante pour 20 ou 30 ans de recherche en sciences sociales et puis reste un modèle à différents titres.
You can have it. New York, c'est très important parce que il y trouve donc des références théoriques. Il y trouve aussi un matériau. Certes, au Brésil, il avait fait son terrain.
Emmanuelle Loyer, historienne.
Mais là, il va bénéficier, si vous voulez, d'une bibliothèque de chroniques, de témoignages, de récits, de plusieurs siècles en fait, qui lui donne une documentation sur essentiellement les Amérindiens, puisqu'on est à New York, hein, c'est beaucoup sur l'Amérique du Nord, mais aussi sur l'Amérique du Sud. Et ça, c'est d'une richesse inouïe. Pour lui, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. Et ça, il trouve ça à la New York Public Library, dans une des salles des Americana consacrées à ça.
Lévi-Strauss va faire ce travail assez phénoménal d'absorption de toute cette littérature sur les ethnies indiennes qui ont déjà été étudiées.
Dans le livre qui est la thèse, donc qu'il ramène, on peut dire comme une sorte de butin de guerre en France en 1947, dans les structures élémentaires de la parenté, il se pique d'avoir fiché 7000 ouvrages et articles. Et il dit d'ailleurs dans des lettres et même peut-être dans l'introduction que c'est aussi une façon pour lui de rendre accessible toute une bibliographie américaine pour la science française qui, évidemment, à cause de la guerre, etc., a pris des années et des années de retard.
Monique Lévi-Strauss, nous sommes ici dans l'appartement où vous avez vécu avec votre mari. Et dans quelle pièce sommes-nous ici précisément ?
Eh bien, cette pièce dans mon enfance, c'était le salon. Et quand nous avons emménagé, Claude et moi, c'est devenu son bureau. Et donc, son bureau, c'était cette grande table américaine, parce qu'elle a été achetée en Amérique et probablement faite en Amérique, mais qui est de style à la fois espagnol et indien.
J'ai vu en entrant que la porte du bureau est capitonnée d'une belle épaisseur. Et comment cela se fait-il ?
Mon mari ne supportait pas le bruit, mais ce qui s'appelle pas du tout. Alors, il fallait qu'il y ait un vrai silence et nous avions un petit garçon et nous avions aussi une femme de ménage et donc tout ça, ça pouvait faire du bruit. Et mon mari, ne le supportant pas, il a fait mettre des doubles vitrages à la fenêtre et tous les murs sont doublés de rayonnages de livres pour insonoriser et les deux portes qui sont derrière moi sont aussi capitonnés. Enfin, on est dans un vrai bunker.
Quel était le rythme de travail de votre mari ?
Alors, mon mari lisait 3 quotidiens tous les jours. Le Figaro le matin, France Soir et Le Monde le soir. Et je crois qu'il recevait 3 hebdomadaires et il recevait un nombre incalculable de revues mensuelles. Et il lisait tout. Il ouvrait son courrier et tout de suite après, le travail d'écrivain commençait. Naturellement, il a dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, qui était attaché à sa chaire. Et là, il allait en fait tous les matins. Donc, le rythme dont je vous parle, c'est plus tard, c'est quand il a pris sa retraite. Mais il a vécu longtemps ici après sa retraite, puisqu'il est mort à presque 101 ans.
Françoise Zonabend, vous êtes ethnologue et vous êtes parmi les plus anciens membres du laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la création d'un laboratoire d'anthropologie sociale dans les années 60 était une petite révolution dans les sciences humaines ?
Oui, effectivement, parce que rien que le nom de laboratoire pour abriter des chercheurs en sciences humaines paraissait un peu une hérésie à cette époque. Ce que Lévi-Strauss a justement voulu faire, et ce qui a été extrêmement important pour toute une génération de chercheurs comme moi, c'est de dire que les chercheurs en sciences humaines ont besoin d'un lieu pour se retrouver, pour non seulement pour travailler dans un coin tranquille, d'avoir un bureau, ce qui est déjà une avancée, mais aussi de pouvoir se retrouver entre eux et discuter des différents problèmes qu'ils rencontrent sur leur terrain, même si leurs terrains sont extrêmement différents, sont lointains ou proches, qu'importe. Et ce qui faisait qu'on se voyait constamment les uns les autres. Et quand on avait un problème, par exemple, on avait des données de terrain, à quoi on pouvait bien les comparer, en quelque sorte, eh bien, on allait frapper au bureau d'à côté en disant, dis donc, toi, tu as travaillé chez les Indiens, ils ont pas un rituel qui pourrait ressembler un peu quelque chose, est-ce que ça te dit quelque chose? Et voilà, c'est comme ça que on pouvait faire avancer par la discussion entre chercheurs nos propres réflexions. Et puis, il y avait dans le laboratoire ce qu'on appelait le séminaire de Lévi-Strauss et le séminaire du laboratoire. Et quand nous revenions du terrain, on devait faire état de ce que nous avions trouvé sur le terrain, poser les questions. Et c'était au cours de ces séminaires que Lévi-Strauss nous disait, ben, continuez dans cette façon-là, ou bien non, il faut peut-être que vous insistiez là-dessus, ou en tous les cas, il nous disait que si l'on se trompait ou si l'on ne se trompait pas, ou si on, dans quelle perspective il fallait que l'on poursuive nos travaux.
Il intervenait beaucoup pour accompagner vos travaux?
Vous savez, les rapports avec Lévi-Strauss étaient très directs, simples, cordiaux, mais extrêmement protocolaires. C'est-à-dire que, effectivement, pour chacun d'entre nous, je crois que je n'ai pas connu un collègue pour qui d'aller faire son séminaire devant Lévi-Strauss n'était pas une épreuve qu'il nous mettait dans tous nos états. Et parfois même, on faisait une répétition entre nous en disant « Est-ce que tu crois que ça va passer ?» etc. Parce qu'on savait que Lévi-Strauss mettait beaucoup d'attention sur nos travaux, sur ce que nous faisions. Et il était peu intrusif, mais il nous faisait confiance. Et au travers justement ces séminaires qu'on faisait, après parfois, il nous prenait, il nous disait, ben, vous viendrez dans mon bureau. On allait dans son bureau tremblante, effectivement, en se demandant qu'est-ce qu'il allait nous dire. C'est là qu'il portait un jugement sur nos travaux en disant, c'est très bien ce que vous avez fait, voilà, vous devez continuer de telle façon, vous devriez lire telle ou telle chose, vous approprier telle démarche, etc. Mais oui, c'était une atmosphère, le laboratoire. C'était d'abord ça. C'était une atmosphère de travail, une atmosphère... Il fallait qu'on rende compte à un grand savant. Et ça, c'est une épreuve. Quand on avait passé l'épreuve, je vous assure qu'on était très contents.
En 1958 paraît Anthropologie structurale, qui va être un livre manifeste, créateur un peu de sa méthode structurale. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'intuition de ce livre, Emmanuel Loyer?
C'est un recueil d'articles qui est programmatique, sachant que le programme a déjà été en partie réalisé dans sa thèse, Les structures élémentaires de la parenté. Ça, c'est le premier, je dirais, massif de son œuvre, c'est-à-dire, en effet, une analyse structurale de l'anthropologie de la parenté. Et le deuxième massif va suivre, au contraire, le programme, disons, ce seront les mythologiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'analyse structurale est appliquée aux matériaux mythologiques. Lévi-Strauss s'empare de ce matériau extraordinairement touffu des mythologies amérindiennes en essayant de montrer comment ces histoires sans queue ni tête, un peu comme les rêves, si vous voulez, on peut leur donner plus qu'un sens, si vous voulez, on peut leur donner raison. Pour lui, ces mythologies, c'est une vraie pensée. Il montre dans La pensée sauvage comment c'est un système de classement, comment c'est une façon, si vous voulez, pour les hommes de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Hein, donc c'est une façon de mettre le monde en ordre. Et c'est ça qu'il essaie de montrer. C'est pas tant tel mythe veut dire telle chose, c'est ce contre quoi s'érige Lévi-Strauss. C'est pour ça que ça fait système, c'est-à-dire il s'agit dans cette espèce d'énorme œuvre des mythologiques, hein, ça fait 2000 pages, 4 volumes, il s'agit de montrer la pensée symbolique à l'œuvre dans ces sociétés, mais aussi à l'œuvre dans nos sociétés en partie. La pensée sauvage n'est pas seulement la pensée des sauvages.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où Claude Lévi-Strauss a relié l'interprétation des mythes avec celle d'une partition musicale? Comment lui est venue cette liaison entre mythe, mythologie et musique?
Je crois que ça a toujours été comme ça, depuis le début.
Monique Lévi-Strauss.
Enfin, tout ce qu'il écrivait, c'est comme s'il avait écrit de la musique, pas seulement sur les mythes, même Triste Tropique. Son arrière-grand-père avait été le chef d'orchestre de Louis-Philippe et de Napoléon III. Et donc, dans sa famille, il y avait une vraie culture musicale. Wagner était enfin, une des idoles de mon mari. Et tout le temps, il me demandait de lui traduire des phrases de Wagner, puisque c'est Wagner qui écrivait lui-même les livrets de ses opéras.
Claude Lévi-Strauss, film de Pierre Bechot, 1972.
Ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes, et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples mêmes qui racontent les mythes en question ou des peuples voisins, mais que c'était les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée, vers le XVIe, XVIIe siècle, et qui ont régné sur la musique jusqu'au XIXe ou jusqu'au début du XXe. Et alors pourquoi? Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que vraisemblablement, il s'est passé dans notre propre société, dans notre propre civilisation, un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique, c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa mainmise sur la pensée de l'homme moderne, au moment où est apparue la forme romanesque, et ça on peut le situer autour du XVIIe siècle, eh bien à ce moment-là, la musique a assumé, sans s'en rendre compte, les formes de la mythologie expirante. Et que si, au départ, j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques, la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leur valeur, leur fonction de civilisation. Das Spiel drum kann ich nicht sparen.
la partition musicale elle-même se lit horizontalement et verticalement.
Emmanuel Loyer.
Et donc, le mythe, c'est la même chose. Vous avez différents codes et vous pouvez interpréter selon différents codes les mythes. C'est pour ça que ce sont deux langages de la totalité. Et par ailleurs, il pense que la grande forme opératique qui se met en place dans le, au XVIIe, XVIIIe siècle, disons, eh bien, succède à la mythologie. C'est le moment où, en effet, on rentre dans un univers plus rationnel, la science, etc., et où les vieilles légendes, les us et coutumes commencent à décliner. Il le dit plus ou moins, lui-même a vocation à prendre le relais de la grande forme opératique à travers son propre opéra, qui est les 4 volumes des mythologiques, puisqu'il dit « j'ai fait ma tétralogie ». N'oublions pas que Lévi-Strauss était très fan d'opéra, et notamment, comme beaucoup de gens de sa génération, de Wagner.
Je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème, qu'un paysage est beau.
Lévi-Strauss n'a jamais pensé que l'art s'était fait juste pour faire beau.
Patrice Manillier.
Lévi-Strauss a toujours compris que la réalisation de formes sensibles était un moyen de penser. Et ça, c'est ce qu'il appelle la pensée sauvage. C'est l'idée selon laquelle, à travers le sensible, à travers tout ce qui est manifeste, les couleurs, les odeurs, etc., en fait, il y a de la pensée, directement. On n'a pas besoin de verbaliser des concepts pour penser. On peut penser en agençant des couleurs, en tissant des choses, en dansant, etc. Un des axes centraux du projet de Lévi-Strauss, c'est de réconcilier les sciences et la pensée abstraite en général avec le monde sensible. Et ça, seul un anthropologue, quelque part, peut faire ça. Parce que quelqu'un qui a cette passion pour la manière dont les gens dessinent des peintures corporelles, la manière dont les gens organisent leur maison, etc., et en même temps pour les modèles mathématiques les plus formels, est quelqu'un qui peut nous montrer qu'il y a une sorte d'unité, en quelque sorte, de l'expérience, qu'il n'y a pas de contradiction entre les formes de vie les plus immergées et les formes de vie les plus abstraites. Ça, je suis convaincu que, au fond, une des choses qui a guidé le plus profondément Lévi-Strauss, c'est l'unité de l'abstrait et du concret.
De pouvoir s'immerger dans la nature régulièrement, est-ce que c'était important pour lui ?
Oui, très important. Malheureusement, il avait une fâcheuse habitude quand il voyait des animaux qui étaient en perdition. Enfin, il adoptait tout le monde et il mettait tout le monde dans son bureau. Et je dois dire, c'était vraiment dégoûtant. On passait son temps à nettoyer, il y avait plein de bêtes, et il fallait apporter des nourritures invraisemblables. Une fois, il avait trouvé des bébés chats sauvages et on lui a dit que le lait de vache, c'était très mauvais. Il n'y avait que le lait humain ou le lait de chien qui marchait. Alors, je devais aller dans des laboratoires pour trouver du lait de chien. Enfin, bon, c'était fou, fou, fou.
Nous avons vécu pendant des siècles sur cette idée que l'homme était un être à part dans la création et que, étant un être à part, il en était le seigneur et maître et qu'il pouvait en disposer librement par rapport aux fins qu'il s'assignait. L'homme a besoin d'apprendre que s'il est respectable, ça n'est pas peut-être d'abord en tant qu'il est humain, mais d'abord en tant qu'il est un être vivant et par conséquent qu'il doit comprendre tous les autres êtres vivants dans le même respect. Enfin, je comprends mal, si vous voulez, que nous entourions d'une sorte de vénération, enfin l'œuvre de Raphaël ou l'œuvre de Rembrandt, que nous placions précieusement leurs tableaux dans des musées, ou plutôt, je le comprends très bien, mais que nous n'ayons pas la même attitude vis-à-vis d'espèces végétales ou d'espèces animales qui, chacune dans son genre, représente une synthèse aussi originale et aussi remplaçable que peut l'être l'œuvre d'un grand peintre, d'un grand écrivain ou d'un grand musicien. Après tout, si telle espèce vivante disparaît de la surface de la Terre, si, disons, demain il n'y a plus de baleines, eh bien, ce sera, me semble-t-il, une catastrophe aussi énorme et aussi irréparable que celle qui se produirait si l'œuvre de Rembrandt tout entière se trouvait brusquement abolie. Et ce que je souhaiterais, c'est non pas qu'on dédaigne un des domaines au profit de l'autre, mais qu'au moins on les place sur le même plan.
S'il y avait pour lui des obligations,
Patrice Manillier,
morales et politiques de l'homme, c'était de préserver, je dirais, la beauté des choses, en fait. Je pense que Lévi-Strauss était quelqu'un d'extrêmement sensible aux singularités dans ce qu'elles ont forcément d'irremplaçables. Et les singularités, c'est à la fois, par exemple, les coutumes et les mœurs qui sont détruites par des formes de mondialisation sauvagement capitalistes, qui détruisent des peuples entiers pour obtenir un peu de bois pour faire vos parquets, quoi. Mais aussi des paysages et aussi des individus. S'il y avait une morale de Claude Lévi-Strauss, ce serait, à mon avis, une morale de la singularité et de l'irremplaçable. Plus une chose est singulière, plus elle mérite notre respect, notre attention. Donc dans un monde où, je crois, 60% de la biodiversité mondiale a déjà disparu, ce type de vigilance que Lévi-Strauss portait était évidemment très fortement critique de ce monde.
Aujourd'hui, où les îles polynésiennes, noyées de béton, sont transformées en porte-avions pesamment ancrés au fond des mers du Sud, où l'Asie tout entière prend le visage d'une zone maladive, où les bidonvilles rongent l'Afrique, où l'aviation commerciale et militaire flétrit la candeur de la forêt américaine ou mélanésienne avant même d'en pouvoir détruire la virginité, comment la prétendue évasion du voyage pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence historique? Cette grande civilisation occidentale, créatrice des merveilles dont nous jouissons, elle n'a certes pas réussi à les produire sans contrepartie. Ce que d'abord vous nous montrez, voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l'illusion de ce qui n'existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l'accablante évidence que 20 000 ans d'histoire sont joués. Il n'y a plus rien à faire. La civilisation n'est plus cette fleur fragile qu'on préservait, qu'on développait à grand-peine dans quelques coins abrités d'un terroir riche en espèces rustiques, menaçantes sans doute par leur vivacité, mais qui permettait aussi de varier et de revigorer les semis. L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat.
Triste Tropique, 1955.
Quand Lévi-Strauss disait « triste tropique », les tropiques sont tristes parce qu'ils étaient détruits en fait, par la colonisation.
Patrice Manillier.
En même temps, il était quelqu'un qui prenait ce point de vue des tristes tropiques pour faire une critique du monde contemporain. Et cette critique-là est devenue vitale pour ce monde même. Parce que ce monde même se reprend dans la figure ce qu'il croyait pouvoir simplement rejeter à l'extérieur. Donc... sa pollution à la fois spirituelle et matérielle lui revient dans la figure. Parce que ce qui caractérise le monde contemporain, c'est justement ce que les Américains appellent la globalisation ou la mondialisation, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a plus de centre. L'Europe avait été un centre. On a cru pendant un certain temps que le progrès organisait l'évolution des sociétés, l'évolution de la pensée. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que le destin de l'Europe, et plus généralement le destin de la modernisation, était un moment, c'est-à-dire une variante, pour employer un terme anthropologique, d'autres formes possibles de l'humanité. Et celui qui nous a le mieux permis de penser les différentes formes humaines comme des variantes les unes des autres, c'est Lévi-Strauss, sans renoncer à l'idée sans laquelle il va falloir chercher une sorte d'unité du genre humain, mais pas au-delà de ces variations, mais dans la logique même de ces variations. Donc l'idée selon laquelle voilà, on va aller progressivement vers l'émancipation, la liberté, etc., hélas, s'est effondré, je crois. Enfin, on voit bien l'idée, ne serait-ce que par exemple l'exemple du recul du religieux. On a longtemps cru que la logique de l'histoire, c'était que la religion reculait. Bon, on voit bien aujourd'hui que les choses sont plus compliquées. Eh bien, la pensée de Lévi-Strauss, ici, est nécessaire, parce que c'est un des premiers, dès les années 40-50, parce qu'il est anthropologue et parce qu'il est l'anthropologue qu'il est, c'est-à-dire un anthropologue radical, très original, eh bien, il a tout de suite compris que cette vision du monde était une vision ethnocentrique, tout simplement ethnocentrique, mais l'ethnocentrisme était au cœur de l'anthropologie elle-même, notamment à travers ces... Je crois la deuxième chose, je crois, que Lévi-Strauss apporte, c'est de nous avoir fait comprendre que l'opposition entre, disons, l'homme d'un côté et la nature de l'autre est une opposition ethnocentrique et très facilement relativisable. Donc je crois que dans l'anthropologie contemporaine, et ça touche au fond à des enjeux qui concernent tout le monde, on s'est rendu compte que finalement beaucoup de gens, à travers l'histoire et aujourd'hui encore, ne considèrent pas que le monde doit être divisé en humains et non-humains. Il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre côté la société. On peut faire société avec des abeilles. Et ça, c'est quelque chose qui va être très utile dans un projet qui intéressait beaucoup Lévi-Strauss, qui était au fond le projet, disons, de l'écologie et de l'écologie politique. Donc là où Lévi-Strauss aussi est un des grands précurseurs du monde contemporain, c'est qu'il a anticipé, on pourrait dire, la crise des Lumières, et notamment la crise du progrès. Un des grands exemples de la crise du progrès, c'est le réchauffement climatique. Là où on voit que on avait oublié de tenir compte d'un certain nombre de petits détails en pensant qu'on allait pouvoir généraliser le type de vie qui était celui des Européens du 19e, 20e siècle à l'ensemble de la planète, c'est que la planète, en fait, aurait besoin d'être 4 fois plus grosse pour supporter ce type de développement. Ce que j'aime chez Lévi-Strauss, c'est au fond qu'il arrive à construire une pensée des Lumières à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il puisse intégrer des formes d'humanité ou des formes de rationalité qui paraissent d'abord inconcevables. Il faut voir que par exemple, le grand Condorcet lui-même, quand il écrivait son tableau historique des progrès de l'esprit humain, en 1792, en plein milieu de la Révolution, imaginez que un certain nombre de peuples seraient exterminés par le progrès de l'humanité. Ce serait naturel. Bon, Lévi-Strauss ne s'est jamais résigné à cette extermination-là. Il a fait du point de vue de ces populations ultra-minoritaires, apparemment ultra-minoritaires, qu'on dit autochtones, un point de vue central pour la modernité. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ces gens qui représentent en fait bien plus que la population américaine d'aujourd'hui, peut-être il y a quelque chose comme 600 millions de personnes dans les peuples autochtones, ces gens en fait sont des modèles de vie pour les décennies à venir.
Et en même temps, ce sont des peuples très mis en danger.
Ce sont des peuples mis en danger, mais qui ont témoigné aussi souvent d'une résilience qui probablement nous inspirera. C'est-à-dire, en effet, le fait qu'ils aient été exterminés, pas simplement volontairement, mais aussi involontairement d'une certaine manière, et qui continuent à l'être. Hein. Il faut dire qu'on est dans une période, d'accélération de la destruction des modes de vie des peuples autochtones, aujourd'hui. En Indonésie, en Amazonie, etc. Des gens sont par ailleurs réellement tués. Donc ces peuples-là ont malgré tout témoigné pendant très longtemps d'une forme de résistance extraordinaire. Je crois que Lévi-Strauss était très sensible à cette capacité de survie et de reconstruction des structures, comme il les aurait appelées, de la vie spirituelle et matérielle des hommes, dans des conditions de catastrophe. Et donc s'il est vrai que ces conditions de catastrophe tendent à se généraliser, ou risquent de se généraliser dans les décennies à venir, avec la crise du mode de production carboné qui est le nôtre, peut-être que ces peuples vont devenir en fait des modèles et que ce qui paraissait comme une sorte de petite singularité exceptionnelle dans l'histoire de la modernité va devenir en fait un centre, un paradigme pour tout le monde. Et Lévi-Strauss ici aura été à nouveau une sorte de phare, comme aurait dit Baudelaire, celui qui nous a éclairés.
Ce qu'il aimait, c'était de pouvoir dialoguer avec les bêtes. Alors, nous avions des amis à la campagne qui savaient que mon mari adorait les oiseaux. Et à un moment donné, on a refait la toiture du clocher d'une église.
Monique Lévi-Strauss.
Et je ne sais pas si vous savez, mais souvent, dans les clochers des églises, nichent des choucas. Et alors, les couvreurs avaient trouvé plusieurs choucas et on est venu nous demander si nous voulions en adopter un. Alors, mon mari a sauté dessus. Bon pour le chouca. Eh bien, il s'est trouvé que ce chouka était formidable. Il n'entrait pas dans la maison, mais il attendait mon mari. Et dès que mon mari sortait, il se posait sur son épaule et il se promenait avec mon mari. Et tous les matins, le chouka attendait mon mari. Et puis, quand nous sommes retournés à Paris, mon mari a été très triste. On ne pouvait pas l'emmener à Paris, évidemment, puisqu'il était sauvage. Mais il voulait le retrouver à la Toussaint. Alors, la veste que mon mari portait et à laquelle était habitué le chouka, mon mari l'a donnée à notre gardien et a dit « Tous les jours, mettez ma veste. » Le chouka n'est jamais revenu. Alors mon mari était très triste parce qu'il pensait que c'était la veste. Non, c'était mon mari.
Quels étaient des souvenirs qu'il aimait évoquer de son enfance ?
Oh, c'est des souvenirs de musique. Oui, c'est de la musique. Ouais.
Quand il allait à l'opéra avec ses parents ?
Oui. Et il savait pas. Ses parents pouvaient chanter tous les opéras, enfin, du 19e siècle, il les savait par cœur. Donc, c'est ça. Tout Offenbach, par exemple. Alors ça, c'était ses souvenirs d'enfance. Tout le temps, il sortait un refrain d'Offenbach ou les mots d'une chanson d'Offenbach. Oui, Offenbach, par exemple, c'est vraiment ses meilleurs souvenirs d'enfance, je pense.
Enfin, si une bonne fée venait me proposer de recommencer mon existence, eh ben, ce serait comme compositeur ou comme chef, à défaut comme chef d'orchestre.
C'était Une vie, une œuvre, Claude Lévi-Strauss, L'homme en perspective. Avec Monique Lévi-Strauss, son épouse, Anne-Christine Taylor, ethnologue américaniste, Emmanuelle Loyer, historienne, auteure de la biographie Claude Lévi-Strauss chez Fayard, Patrice Manillier, philosophe, professeur à Paris 10 Nanterre, auteur du vocabulaire de Lévi-Strauss chez Ellipse, et Françoise Zonabent, anthropologue, ancien membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Lecture des extraits de Triste Tropique par Thierry Beauchamp. Archives extraites de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot et du film Claude Lévi-Strauss de Pierre Beuchaud. Prise de son Yann Frécy, Fabien Gosset, Yves Lehors. Mixage Pascal Bénard. Attaché de production Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko. Claude Lévi-Strauss, L'homme en perspective. Un documentaire d'Élise Gruot et Thomas Duterre.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Dans quelques instants, Le temps des écrivains, et la semaine prochaine, en prélude à la série documentaire consacrée à la Révolution russe, ce sera Une vie, une œuvre, Grigori Efimovitch Raspoutine.